CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
À l'émission aujourd'hui, le lac Saint-Pierre, reconnu région de biosphère de l'UNESCO, il y a 25 ans. Je reçois pour traiter de ce quart de siècle-là, là, d'engagement en faveur de la conservation, de la mise en valeur et du développement de ce territoire qu'on dit d'exception, Anne-Marie Dulude, Normand Gariépy, Hélène Gignac, Paul Messier, Marie-Josée Picard et Geneviève Tardy. On vous revient après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Pour une Saint-Valentin en amoureux ou entre amis, quoi de mieux que de se retrouver autour d'une bonne fondue? La boucherie Les Viandes Joyales a tout ce qu'il vous faut pour préparer ce plat aussi convivial que romantique. Profitez de nos spéciaux sur les tendres et fines tranches de bœuf de qualité supérieure, de poulet et de porc. Trouvez une foule d'accompagnements et essayez notre fameux plateau terre et mer. De tout pour combler vos papilles et votre amour de la fondue. Les Viandes Joyales, c'est toujours un régal. 235 boulevard Poliquin face au Terminus.
Mardi dans Valérie l'après-midi, on ouvre la boutique de souvenirs avec Jean-Pierre Gravel. Il sera question de hockey avec le journaliste Richard Labbé. Et Sylvain Rochon nous accompagne pour les informations régionales. Soyez là dès 15h30.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Bon, voilà 25 ans, ce serait plus juste de dire 26 ans, que le lac Saint-Pierre a été reconnu par l'UNESCO région de biosphère. Je reçois pour discuter de ce quart de siècle et un peu plus d'engagement en faveur de la conservation, de la mise en valeur et du développement du territoire. Normand Gariépy et Hélène Gignac qui ont travaillé bien, bien fort à cette désignation de région de biosphère. Alors, bonjour. Bonjour, Hélène.
Bonjour. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Monsieur Gariépy. Je cherche votre micro. Voilà, je l'ai trouvé. Bonjour, Monsieur Gariépy.
Bonjour, Sylvain.
Il y a aussi avec nous Geneviève Tardy. Geneviève est directrice générale du comité ZIP du lac Saint-Pierre. Ce comité reprenait en 2020 le mandat de coordination autour du statut délivré par l'UNESCO. Bonjour Geneviève.
Bonjour Sylvain, merci de l'invitation.
Ça m'a fait plaisir. Anne-Marie Dulude, directrice générale du BIOFAR, l'institution muséale met en valeur le patrimoine naturel et humain lié au territoire de la biosphère du lac Saint-Pierre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Sylvain.
On poursuit. Paul Messier. Paul, son nom est étroitement associé à la SABL, la Société d'aménagement de la Baie-Lavalière, travaille à la restauration et à la conservation du grand marais, aménagé de l'Est de l'Amérique du Nord et des milieux humides environnement. Bonjour, Paul.
Bonjour, depuis 37 ans.
Depuis 37 ans! Oui, écoute, il était au berceau. Et Marie-Josée Picard, directrice générale qu'on a entendue, directrice générale de Tourisme Région Sorel-Tracy, l'organisme sous l'aile de développement économique Pierre de Sorel, regroupe les intervenants touristiques et a pour mission la promotion, l'accueil et l'information touristique. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour Sylvain.
Je me tourne d'abord du côté d'Hélène et Normand, parce que je veux que vous me parliez tous les deux du commencement de tout ça, de la lutte pour la reconnaissance de ce territoire comme en étant un de la biosphère de l'UNESCO. Vous œuvriez chacune et chacun où quand vous avez pris votre bâton du pèlerin? Est-ce que tu
étais... Moi, j'étais au bureau du député Louis Plamondon. Alors, j'étais attachée politique au bureau de Louis Plamondon quand Normand est venu nous voir pour nous parler d'un projet, parce qu'il y avait, en fait, un fonctionnaire fédéral qui voulait faire du Richelieu, en fait, Richelieu jusqu'au... au lac Champlain, en fait, un projet de biosphère. On était début 90,
okay. Vous voyez ça. Avant d'aller plus loin, oui. Normand, toi, tu faisais quoi, là? Étais, quelles étaient tes fonctions au moment?
Mécanicien d'usine à Thioxyde du Canada, l'usine la plus polluante en Amérique du Nord. Elle n'existe plus, de toute façon. Mais j'étais aussi chroniqueur dans le journal Les Deux Rives, précédemment La Voix métropolitaine. Et c'est là que Louis m'a téléphoné pour dire « Viens parler au monsieur. »
Louis
Plamondon.
Louis Plamondon, pour lequel travaillait exactement. Hélène Girac. On se replace.
C'est là que l'idée est démarrée à ce moment-là.
Bon. Voilà, bon. Voilà. Mais tu étais aussi président de la Société d'initiative et de conservation du Bas-Richelieu, l'organisme, en fait, qui a porté le projet, là, dès le début.
Et aussi président de l'association de chasse et pêche, et aussi vice-président du comité ZIRP, voilà. Et aussi... Là.
Il n'y a rien qui n'a pas fait. Alors, c'est toi, Normand, discipline, c'est toi, Geneviève, on va sortir le marteau du président de l'Assemblée nationale, nous, on s'est connus en politique. Normand, c'est toi, donc, qui t'es levé un matin en te disant « Il faut le titre de réserve », on appelait ça alors « réserve », de biosphère, de l'UNESCO? C'est toi qui t'es venu à matin?
C'est un peu cette folie-là, là, comme tu dis. Là, pourquoi pas? Comment on fait? Puis là, ben, j'ai retourné voir mon ami Plamondon, puis bon, après ça, Hélène. Louis Gagné, on était très près à Louis à l'époque. Louis Gagné, qui était le dernier des membres des Mohicans. Là. Louis était... négociateur pour conservation de la nature, pour acquérir des habitats fragiles là, au lac Saint-Pierre. Et à partir de nous trois, là, on a fait quelques réunions de MRC, quelques réunions de municipal. On a fait le tour il y a plusieurs fois à l'occasion.
Sur plusieurs années,
le territoire que vous souhaitiez voir reconnu, est-ce que, dès le départ, vous l'aviez parfaitement en tête? D'où il partait, où il s'arrêtait? Qu'est-ce qu'il englobait, ce territoire?
Au départ, c'était le lac, en fait. C'était vraiment le lac, les 480 kilomètres de circonférence.
Avec les îles, naturellement.
Avec les îles, évidemment, et les berges. Il fallait répondre à certains critères. Et finalement, le lac Saint-Pierre cochait en tout point. Sauf que, faut se rappeler aussi l'époque, là, le début des années 90, il y avait les usines commençaient à traiter leur eau usée, les villes. Il y avait le centre de tir de Nicolet qui tirait encore dans le lac. Alors, les premières fois qu'on a parlé de ça, les gens nous disaient, ben voyons donc. On nous prenait un peu pour des grands rêveurs, ce qu'on était, mais
on était.
Finalement, on est allé rêver jusqu'au bout notre projet et on l'a porté.
Les premiers balbutiements, là, on parle de quelle année? Parce qu'on est reconnu en 2000, mais...
C'est vraiment début 90.
Début 90.
Oui, c'est ça. Normand est venu nous voir au bureau de Louis, puis après ça, il m'a rappelé, puis il m'a dit, Hélène, il faut que tu travailles avec Paul là-dessus. Parce que, bon, personne n'y croyait trop, puis j'ai dit, ben oui, tu sais, comme ça, hein, comme... Je vais t'aider, sans penser qu'on partirait sur une longue traversée.
À partir d'un formulaire d'une quarantaine de pages.
Voilà,
c'est
voilà.
C'est terminé avec 1000 pages.
Ah, ils sont déjà rendus au formulaire. Attends une minute, rendus au formulaire.
C'est ça.
Pourquoi avoir tant voulu, tous les deux, Louis Gagné avec vous autres, pourquoi avoir tant voulu que la région du lac Saint-Pierre soit désignée réserve de biosphère? On disait réserve à ce moment-là. Mm-hmm. Quel bénéfice vous estimiez qu'elle en tirerait, la région, de cette désignation-là?
Mais il y avait tellement de problématiques, comme Hélène disait, la pollution, les usines, les municipalités, la voie de navigation, les navires qui passaient à pleine vitesse, qui heureusement ont ralenti avec la recherche d'obtention de titres. La pêche, encore aujourd'hui, on a encore de la misère à gérer nos poissons au lac Saint-Pierre. La chasse, les habitats, Canard Limité qui avait investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent depuis 10 ans dans des marais, ben, la baie de la Vallière aussi, naturellement. Là. Donc, tout ça faisait que ça n'allait pas si bien que ça au Lac-Saint-Pierre.
Et vous aviez aucun doute qu'elle avait les caractéristiques et les qualités requises pour obtenir la désignation, la région. Aucun doute que ce territoire était un territoire d'exception.
En fait, quand on part comme ça sur un projet, c'est pas le doute qui nous habite. On veut aller jusqu'au bout. Et ce bout-là, dans le fond, on le voyait, on voyait l'UNESCO, mais ça aurait pu être ailleurs. C'était notre objectif et on n'allait pas, on regardait pas autre chose. On voyait vraiment l'UNESCO. Puis, on a parlé des éléments négatifs, mais il faut voir. Moi, j'ai découvert le lac Saint-Pierre avec Normand en allant sur l'eau. Tant de beauté. C'est extraordinaire. Et les gens qui viennent, quand ils entrent dans les marais, c'est fantastique. Ils se voient. On est ailleurs. On est ailleurs. Et c'est pas pour rien qu'on parle des bayous du Nord. Donc, et quand on disait, bon, on était sûr, c'est que les études étaient là. Il y avait beaucoup d'études, il y avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur le lac Saint-Pierre. Donc, c'était pas anodin.
Les études étaient là.
Il y a des chercheurs de l'Université de Montréal, il y avait des chercheurs de l'UQAM, il y avait des chercheurs de Trois-Rivières, il y avait même déjà des projets de bateaux pour
beaucoup,
travailler peut-être sur le lac.
Il y aurait un hommage.
Mais quoi, c'est des chercheurs qui s'intéressaient à la biodiversité,
à l'écosystème. Oui, parce que le lac, à l'écosystème.
À la richesse du lac Saint-Pierre. Parce que c'est immense, richesse. Je veux revenir aux doutes. À chaque étape, on avait des doutes. Quand on est arrivé en face du chantier à Nicolette, dans le lac, mais on s'est rendu compte que d'autres réserves de biosphère avaient beaucoup de problèmes, eux aussi.
C'est ça.
Et que ça servait un peu de prétexte à faire plus attention dans le futur. Donc, comme exemple, ben, la Défense nationale a arrêté de tirer quand on a commencé à pousser notre projet. Les navires, qui n'étaient pas gentils, qui allaient trop vite, ben, ont ralenti. En passant, c'est une réglementation volontaire. Puis ils ont accepté de suivre la vitesse recommandée.
Ça. Pour limiter l'érosion des berges, qui était une des grosses problématiques.
Oui, le doute était toujours permanent. Mais un peu, puis l'équipe de trois est un peu têtue tous les trois. Là, on pensait bien que c'était faisable. Parce qu'à chaque étape qu'on parcourait, parce qu'il y a comme plusieurs étapes pour remplir le formulaire, on trouvait nos réponses, puis on ne les connaissait pas.
Bon, bien, racontez-moi justement, là, tu parles d'étapes, racontez-moi votre cabale, votre campagne. Il a fallu, avant de l'amener auprès de l'UNESCO, qu'elle débute auprès des actrices et des acteurs d'ici, des mairesses, des maires, des députés, némites. Vous n'alliez pas partir à la guerre seulement tous les trois, là. Alors, il a fallu convaincre du monde autour.
Oui, puis ce qu'on voulait faire, nous, contrairement à la majorité des projets où c'était des études qui étaient déposées, des fonctionnaires qui déposaient les projets comme dans Charlevoix, ou des universitaires comme au Mont-Saint-Hilaire, nous, on a décidé, comme les études étaient là, on a décidé d'en faire un projet collectif. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller chercher l'aval des maires, des MRC, des préfets, en fait, l'aval des communautés, des réserves indiennes. Il y avait deux communautés, il y a encore deux communautés, puis ça s'est élargi, en fait, depuis. Donc, on voulait, en fait, en faire un projet collectif. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a commencé par faire une tournée de l'ensemble des municipalités, des préfets.
Partout sur le territoire.
Partout sur le territoire. Une vingtaine de municipalités. Il y avait 4-5 MRC, les communautés autochtones, tous les projets, en fait, Sarcelles, la Maison du Marais. On a voulu en faire un projet collectif. Que les gens adhèrent au projet. Parce qu'au départ, ils disaient « votre réserve de biosphère ». Et ce qui est magique, c'est que quand on a eu le titre, c'était notre réserve.
Oui,
les gens en parlaient autrement.
Est-ce qu'il y avait une adhésion préalable? Vous dites que vous avez pris votre bâton du pèlerin, vous faites le tour de tous les élus. Est-ce qu'ils adhéraient facilement à l'idée ou ils auraient un don?
L'avenue qu'on a choisie, c'est chaque municipalité a une résolution. Donc, les municipalités, souvent, ou la municipalité en question se tournait vers ces groupes de protection de la faune, ses chasseurs, ses pêcheurs. C'est fait qu'imagine-toi le bouillon là, qui se créait dans la municipalité, c'était vraiment pas... beaucoup de refus, faut pas s'en cacher. La première tournée qu'on a faite, et puis il y a plusieurs
soirs
que mon épouse nous a pas vus. Comment?
Vous avez eu des refus?
Oh, ben,
pourquoi? Sur quel motif?
Pourquoi on a choisi cette avenue-là?
Attends, sur quel motif vous avez des refus?
On était peut-être un peu trop rigide au départ. Demandait aux municipalités de ne pas... en fait, on voulait une bande rivienne, une bande riveraine tout le long du lac Saint-Pierre. Puis évidemment, il y avait des endroits où les agriculteurs utilisaient ces espaces-là. Donc, on était moins bien reçus. Mais au fil des deux temps, en fait, ça s'est amélioré. Ouais,
mais le refus premier, c'est les ministères.
Aussi.
Les ministères n'étaient pas intéressés parce qu'ils avaient leur vocation, ils avaient leur lac, leur terrain de jeu que j'ai toujours appelé. Donc, parce que si on avait eu dès le départ l'appui à 100% de tous les ministères concernés, Montérégie, Trois-Rivières, etc., eh bien, on aurait peut-être plus facilement obtenu l'aval de toutes les municipalités.
Le temps file, puis on est nombreux autour de la table. À l'UNESCO, là, c'est ça, je vais rapidement. À l'UNESCO, c'est un cahier de candidature que vous avez présenté.
Comment ça fonctionne? Exactement, en fait, je voudrais juste finir sur le parce qu'il y avait déjà une reconnaissance qui s'appelle le Ramsar, en fait, les milieux humides. Le ministère avait cette reconnaissance-là et pour eux, ça suffisait. Mais nous, on a vraiment voulu aller chercher le titre ultime. Et dans le fond, c'est un formulaire.
Oui.
Puis l'idée, c'était de répondre aux questions. Donc, on a déposé un premier formulaire. Et là, il y a une délégation de MAB Canada qui est venue au lac Saint-Pierre, qui au départ était sceptique. Puis par la suite, quand on est allé en bateau...
C'est le modèle qui est totalement différent.
Et c'est ça. Et c'est ça, en fait. Parce qu'il faut comprendre que les réserves, à cette époque-là, c'était des parcs. Hein? Donc, on entre le soir, on entre le matin, on ferme le soir. Puis... c'était pas des milieux habités. Donc, c'est un modèle tellement différent, mais en même temps, eux-mêmes ont trouvé ça intéressant parce qu'ils voyaient que c'est ça qu'il faut... C'est ces milieux-là qu'il faut changer. C'est ces milieux-là où on doit travailler à l'amélioration des usages.
Mais une dernière chose. Peut-être saluer, rendre un hommage à deux personnes, puis sans ça, on n'aurait pas le titre. Yves-Étienne Banville. Tu connais bien, qu'on connaît bien.
Hélène le connaît mieux que nous.
Yves-Étienne était attaché politique, c'est là, c'est mort. Et on avait une objection totale du ministère de la Faune de déposer la candidature. Parce qu'il prétendait que l'UNESCO était pour venir se mettre le nez dans leur... Mais Yves-Étienne, et là je salue aussi, malheureusement décédé lui aussi, David Clich, qui était ministre à l'époque de la Faune. Et qui a passé par-dessus les recommandations des fonctionnaires et a permis au sous-ministre de signer le formulaire.
Et la nouvelle de la désignation, le oui de l'UNESCO, il est arrivé quand précisément?
En novembre...
Le 9 novembre 2000, voilà. Mais en fait, on a déposé en janvier.
Exact.
C'est ça. Puis, on avait fait une présentation 2000, même à Vancouver. On était sur l'île de Vancouver à ce moment-là. On a fait une présentation à l'Assemblée des réserves de biosphère. Puis, on avait déposé notre projet. Puis, pendant plusieurs mois, on n'a pas entendu parler de quoi que ce soit. Puis, par la suite, c'est ça, on a eu le message, en fait, si je me souviens bien, c'est un courriel de l'UNESCO d'où 10 ans. Voilà, vous avez le titre.
Wow.
Et ce qui est magique, c'est
que... 10 ans de lutte, c'est ça? Ça a duré 10 ans.
À peu près 10 ans, effectivement. 10 ans, en fait. Moi, je n'ai pas de lutte comme de collaboration. Parce que faut comprendre qu'au départ, là, il y avait beaucoup de d'inconscience par rapport au lac Saint-Pierre. Les maires qu'on voyait n'étaient pas nécessairement contre, mais... souvent, ils se disaient, on avait fait une présentation avec Luc de Sorello Vision.
Et, Luc Lamoureux.
Luc Lamoureux, oui. Également le défunt, Luc Lamoureux aussi. Et les gens regardaient notre présentation puis disaient, c'est pas chez nous. Donc, c'est voir à quel point on partait de loin. Hein.
Mais on a constaté, lors de notre tournée, comment les gens étaient doux au lac Saint-Pierre.
Oui.
À cette époque.
Ils étaient quoi au lac Saint-Pierre?
Doux au lac Saint-Pierre. On ne connaissait pas
le lac.
Pas.
sa richesse. Bon, oui, les chasseurs le connaissaient, mais c'est pas la majorité des gens autour du lac. Les pêcheurs le connaissaient, encore là, c'est pas la majorité. Mais pour le reste, on dans toute notre démarche, on a même fait des expositions de dessins dans les écoles du coin pour faire connaître aux jeunes la richesse du lac Saint-Pierre.
Avec le biophare.
Oui, puis ça a fonctionné, là, les jeunes embarquaient.
Les amis, savez-vous quoi? On va s'arrêter pour une première pause. On s'intéresse ce midi au lac Saint-Pierre et plus précisément à sa désignation par l'UNESCO comme région de biosphère.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présentent la bonne nouvelle économique.
La ministre Mélanie Joly, le député Jean-Bernard Raymond et Investissement Québec annonce l'octroi d'un financement à Atelier d'usinage Côté et Audet. Québec lui accorde un prêt d'1,05 million de dollars et Ottawa une aide remboursable d'un million de dollars. Ces appuis permettront à l'atelier d'usinage d'accélérer la réalisation d'un projet structurant pour l'économie locale et pour la vitalité industrielle du Québec. L'entreprise, un acteur important dans les secteurs des pâtes et papiers, de l'hydroélectricité et de l'acier, pourra entreprendre des travaux d'agrandissement et acquérir de nouveaux équipements essentiels à la modernisation de ses installations. Ces investissements lui permettront non seulement d'améliorer l'efficacité de ses activités, mais aussi d'augmenter sa capacité de production et de consolider sa compétitivité dans des marchés stratégiques pour l'économie québécoise.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Vous êtes préoccupé par ce qui se passe chez vous?
La prise de conscience, ça ne s'est jamais faite à Ottawa en termes de perte du français, tant au Québec que dans le Canada.
Ne ratez pas la chronique du député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel, Louis Plamondon, tous les jeudis 7h15 dans Yahtzee Matin à CJSO.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Une exposition photo présentée au Biophare souligne les 25 ans de la désignation du lac Saint-Pierre comme région de biosphère. Avec moi pour en parler, Anne-Marie Duluth, Normand Gariepi, Hélène Gignac, Paul Messier, Marie-Josée Picard et Geneviève Tardy. Pourquoi est-on, Geneviève? Geneviève est directrice du comité ZIP du lac Saint-Pierre qui a pour mandat de coordonner tout ce qui a trait et découle de ce statut de région de biosphère. Pourquoi est-on passé du vocable réserve de biosphère à celui de région de biosphère?
Excellente question. Merci. Sylvain. je vais commencer en disant, pour clarifier un point là, qui revient souvent, c'est qu'une région de biosphère avant réserve de biosphère ne... L'UNESCO ne confère aucun statut juridique, pas juridique, mais légaux aux réserves de biosphère. Donc, ce n'est pas une aire protégée. Ça, c'est important
c'est
de le dire.
C'est très bien de le signaler.
Oui. Ouais, ouais. Puis, justement, dans le fond, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de statuts qui réfèrent au mot réserve. Donc, Hélène, tout à l'heure, disait réserve indienne. Bon, ça pouvait porter à confusion. Au lac Saint-Pierre, on a des réserves de biodiversité, on a des réserves naturelles en milieu privé, on a des réserves fauniques. Donc, c'est une situation qui est unique au Canada, je vous dirais, cette confusion-là. Donc, il y a eu récemment un mouvement là, pan-canadien pour convertir les réserves de biosphère en régions de biosphère.
Qu'ailleurs dans le monde, elles continuent d'exister,
oui,
les réserves.
Oui, non, c'est des réserves ailleurs parce que... Le cas particulier des réserves amérindiennes, c'est uniquement au Canada là, qu'on a cet enjeu-là. Donc, puis au Québec, au lac Saint-Pierre, il y avait beaucoup de superposition de réserves.
Le territoire de la région de biosphère du lac Saint-Pierre, est-ce que c'est le même territoire en 2026 qu'en 2000? Est-ce que c'est la même superficie de territoire là, qui est frappée du sceau de la désignation?
Non. Initialement, vous avez parlé de kilomètres carrés de berge tout à l'heure. Je dirais plutôt qu'autour du lac Saint-Pierre, il y a une vingtaine de municipalités. Là, maintenant, le territoire de la région de biosphère a été réparti par MRC. Donc, c'est les 5 MRC riveraines au lac Saint-Pierre, ce qui porte...
Nomme-les donc, tiens.
Les MRC?
Ouais, les 5.
La MRC d'Autré, la MRC de Masquinongé, la MRC de Pierre-de-Sorel, la MRC de Nicolet-Bécancour, puis l'autre, la cinquième, c'est...
La ville de Trois-Rivières.
Nicolet-Yamaska. Et la ville de Trois-Rivières. Donc, ça porte à 73 municipalités et deux communautés autochtones. Fait que c'est un territoire qui est énorme. En termes de municipalité, j'ai appris récemment là, que le lac Saint-Pierre, seulement la région de Biosphère, a 26 % des municipalités contenues dans les régions de Biosphère partout au Canada. Donc, il y a 19 régions de Biosphère, mais en termes de nombre de municipalités, c'est au lac Saint-Pierre qui a la plus grande concentration.
Tu as parlé tantôt, puis tu as bien fait, là, du statut juridique que ça ne constitue pas, cette désignation-là de région de Biosphère. Mais est-ce que ça donne aux communautés qui l'habitent des devoirs?
Oui, mais ils ne le savent pas. Je dirais beaucoup que moi, quand je suis arrivée en poste, c'est un des mandats que mon conseil d'administration m'a donné, c'est de faire percoler, si on veut, le statut, la notoriété, d'augmenter la notoriété, notamment au niveau du monde municipal, qui, elles-mêmes, là, les municipalités ne savent pas nécessairement qu'ils sont dans une région de biosphère.
Elles ne l'annoncent pas. C'est ma grande insatisfaction. Ça fait 26 ans que nous sommes région de biosphère de l'UNESCO. Où est-ce que c'est annoncé sur le territoire? D'endroits, dans certains parcs.
Seigneur, si on s'embarque là-dedans, on a regardé... on a regardé le potentiel d'affichage là, au niveau des autoroutes. Bienvenue dans la région de Biosphère, Saint-Pierre. C'est une démarche interminable. Là, il y a d'autres régions...
Si on avait commencé à 25 ans, on aurait probablement fini aujourd'hui.
Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais c'est quand même... dans le plan de com, mettons que c'est un gros morceau, mais puis c'est le territoire est tellement grand que l'affichage routier là, il est quasiment incohérent parce que tu sais Saint-Mathieu-du-Parc est dans la région de biosphère du lac Saint-Pierre. Là.
Non mais Geneviève, tu sais, il y a plein de municipalités qui à leurs entrées affichent être affiliées à une ville française là.
Oui.
Hein? Pourquoi sous le nom de la municipalité, c'est pas écrit région de...
Mais là, je vous dirais que dans les derniers mois, on travaille beaucoup là-dessus. On a développé des projets avec les municipalités, puis on va profiter de l'occasion pour leur signifier l'importance et ce que ça peut être comme levier pour elles.
Je reviens encore là, sur l'affaire du statut juridique puis tout ça. Alors, ne viens pas, parce que je veux que ce soit clair, ne viens pas avec la désignation, un cadre, des règles, quoi que ce soit qui commande, qui oblige une activité humaine, agricole, industrielle, touristique, d'être respectueuse de l'environnement, de la biodiversité.
Une région de biosphère, c'est une désignation, donc c'est une reconnaissance. Une reconnaissance au même type que n'importe quelle autre accréditation, prenons les normes MISO, là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais dans le fond, on a une obligation d'amélioration continue dans différents axes d'intervention, dont la protection de l'environnement, mais ce n'est pas que. Donc, est-ce qu'on est tenu légalement de mettre en place des actions? Non. Est-ce qu'on est tenu de mettre en place des actions? Oui. Pourquoi? Pour maintenir notre statut à l'échelle de l'UNESCO. Donc, il faut démontrer à chaque 10 ans qu'on a mis en place, que le statut nous a
suggéré
le statut nous a forcés, si on veut, à mettre en place des actions qui n'auraient pas été mises en place sans la
désignation. Puis il y en a des actions.
Il y en a beaucoup. Puis, à chaque 10 ans, l'UNESCO envoie une délégation pour évaluer ce qu'on a mis en place, puis est-ce qu'on respecte cet objectif-là d'amélioration continue.
D'accord. Paul Messier, tu connais ce territoire comme le fond de ta poche, en tout cas une bonne partie du territoire. Tu y as mené avec la SABL puis d'autres aussi, là, des activités visant à protéger les milieux humides, la faune, la flore. Qu'est-ce que tu y observes depuis 25 ans sur ce territoire? Est-ce que c'est un territoire qui est de plus en plus en santé ou de moins en moins en santé?
Moi, je te dirais qu'il est comme en évolution. Là. Il cherche sa place. Là,
toi, tu devrais faire de la politique. T'as une maudite belle réponse pour contourner la question. Il est en évolution.
Ben là.
Mais oui, mais positive ou négative?
Je te dirais que c'est dur à répondre. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Ça dépend des changements climatiques. Parce que là, on vit avec ça là, depuis plusieurs années. Puis, l'introduction de nouvelles plantes intéressantes, comme la chanteille d'eau. Fait que qu'on essaie de contrôler le plus possible, qu'on a découvert parce que...
Oui, intéressant, c'était du sarcasme, ça.
Non, parce que...
Non, mais tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça...
C'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est qu'il prend de l'ampleur, puis qu'on essaie de contrôler avec la ZIP, puis le lac Saint-Pierre, depuis une couple d'années, puis ça porte le fruit. Il y a aussi qu'est-ce qui est arrivé. On a déjà eu une mortalité extraordinaire dans la baie de la Vallière de Canard à cause d'un escargot qui transportait une certaine maladie. Les canards mouraient comme s'ils étaient vivants. T'sais, ils étaient comme placés pour nager ou dormir, mais ils étaient morts. Puis on en a ramassé au-dessus de 250.
Et là.
Fait que c'était comme une hécatombe. Fait que c'est ça un peu le lac Saint-Pierre, c'est ainsi. Des hauts et des bas.
Mais l'activité humaine, est-ce que tu trouves qu'elle est plus respectueuse aujourd'hui de l'écosystème qu'il y a 25 ans?
Il y a des nouveaux moteurs qui sont sortis, qui s'appellent des mud body, ou encore des Daredevil, puis tout ça, ou encore les argots qui se promènent un peu partout. À cette heure, avant, dans le temps de Normand, on allait à la chasse, on se poussait en canot.
Tu remontes, on était en immémoriaux.
1898.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Ouais. Mais à cette heure, c'est plus ça. Là. Tout le monde a accès au marais, même dans les coins les plus reculés. Ça, c'est
là, le niveau d'eau, les dernières années...
Un peu, il parle à lui, t'as pas se poser. Attends un peu ton micro, faut que je trouve ton micro. C'est pas mal plus compliqué que tu penses, là, être animateur à radio. OK, vas-y, Normand.
Avec les niveaux d'eau des dernières années, les bas niveaux d'eau, y a moins de mud body qui viennent briser l'environnement. Là. Alors, peut-être te questionner, Paul, sur la population de poissons, la santé. Oui.
Santé de poissons, c'est sûr que là, ça avec la perche chaude, on prend une certaine dérape. Il y a certaines espèces qui sont favorisées par... où on est rendu, là. Tu sais, il y a des espèces envahissantes, comme... quelles que je pourrais choisir, il y en a plusieurs. Oui, c'est ça, on est rendu avec.
Il y a une biologiste, il y a une biologiste qui veut prendre
la parole. Oui, je pense que la perche chaude, nous, on a rencontré des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui travaillent beaucoup sur les herbiers aquatiques qui sont en train de diminuer énormément. À cause des sédiments qui se ramassent dans l'eau, l'eau est plus opaque, les plantes subaquatiques vivent moins. Puis ça, c'est le garde-manger des jeunes perches chaudes. En ce moment, il va falloir rétablir toutes ces herbiers aquatiques-là, changer les pratiques agricoles pour remonter la population de perches chaudes, je pense. C'est sûr que tout ça est interrelié, le type de navigation qui va arracher le fond, on remet les sédiments en...
Quel est le plus grand défi de conservation qui se pose en 2026? C'est une méchante question, ça. T'as pas juste soupiré, Paul répond.
Le plus grand défi en conservation, je dirais maintenir, redonner un peu l'ancien lac Saint-Pierre. Mais ça sera pas facile parce qu'on va parler de destruction d'aménagements qui a été installé dans le passé puis qui jouent un rôle plus néfaste que bénéfique maintenant.
Là. Les autres, avez-vous envie d'y répondre à la question en 100 000 places?
Hein? Je comprends pas qu'on n'a pas encore abordé l'érosion des rives. C'est un fléau qui date. Puis ça, c'en est une des problématiques qui nous avait interpellé dès le départ. Là.
Ah oui.
C'est, sur certaines îles, c'est plus de 2 km qui ont reculé. Là. Et ces sédiments-là qui sont remis en circulation sont, pour moi, une des principales causes de la perte d'herbier nourricier.
Geneviève Tardy.
Oui, bien, nous, on a une table de concertation là, régionale sur le lac Saint-Pierre. Mm-hmm. Puis une des priorités, c'est l'érosion des berges, notamment. Et il y a des actions là, qui sont mises en place par rapport à ça, dont un comité de travail qui vise à faire adopter une réglementation pour limiter la vitesse là, au lac Saint-Pierre. Puis c'est en démarche. Là. Vous allez entendre parler de ça dans les prochaines semaines. Puis, pour répondre à ta question, là, moi, je crois que l'objectif d'une région de biosphère, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les différents usages du lac Saint-Pierre, donc de ne pas mettre une cloche de verre sur l'écosystème en tant que tel, mais de réussir à atténuer, si on veut, les effets de l'homme sur la nature, puis de trouver un meilleur... à trouver une façon de cohabiter.
Mais là, qu'en est-il de l'équilibre, justement?
Bien, en fait, en toute franchise, tous les indicateurs de santé du lac Saint-Pierre sont en déclin en ce moment. Là, on ne se fera pas de cachette. Là, par contre, au niveau humain, là, je parle des indicateurs de santé, c'est surtout des éléments de la biodiversité. Mais d'un point de vue humain, moi, je sens qu'il y a un momentum, il y a un intérêt accentué là, sur, pour protéger le lac Saint-Pierre. Est-ce qu'il est minuit moins deux?
Oui, est-ce qu'il est minuit moins deux? C'est une très bonne question que tu te poses.
Minuit plus deux, je ne serais pas prête à dire un ou l'autre, mais on est autour de minuit. Par contre, il y a vraiment une conjoncture, on sent qu'il y a une volonté politique, il y a des nouvelles annonces qui ont été faites récemment, il y en a des nouvelles qui s'en viennent. On est tous assis à la même table en ce moment dans différents comités, tout le monde ensemble de tous les secteurs d'intervention pour réussir à trouver des actions qui vont être concertées. Puis moi, pour, honnêtement, je lance pas la serviette, là, je suis très, très confiante.
Anne-Marie fait des grands signes, oui, de sa tête.
Oui,
là.
Mais je pense que la sensibilisation, c'est le mot-clé, là. Tu sais, que, comme tu parles de concertation, je pense que la SABL le fait beaucoup aussi, de la sensibilisation, nous autres aussi, à travers nos activités. Donc, c'est vraiment conscientiser les gens par rapport à... On peut pas empêcher les gens de faire des activités, mais de les faire mieux, en étant conscient de l'impact que ça peut avoir. Je m'avais une question par rapport à la reconnaissance. Quand vous avez fait vos démarches, Normand et Hélène, est-ce que les gens étaient inquiets du mot de réserve, comme s'ils avaient peur que de ne plus pouvoir pratiquer leurs activités?
Ouais. En fait, c'est exactement quand tout à l'heure, quand Geneviève parlait du fait que ce n'était pas restrictif, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on leur a démontré là au fur et à mesure qu'on faisait les rencontres, qu'au contraire, c'était beaucoup plus basé sur une pratique volontaire et c'était pas restrictif. Il y avait déjà en fait des zones qui étaient restreintes. On avait quand même déjà deux habitats protégés, la réserve faunique et la grande île. Donc, et il n'y aurait pas de nouvelles protections supplémentaires suite à cette reconnaissance. En fait, c'était pas, ça amenait pas en fait.
Ça, c'est un discours que vous avez dû beaucoup tenir auprès des industriels en particulier.
Ben pas juste, non? Surtout les pêcheurs. Les autres, et les pêcheurs,
ils friquer, non?
Non.
Non, Ferritstone, puis tout ça,
c'est... En passant, les premiers qui ont financé cette démarche-là, parce que ça prend des sous là, pour bâtir des vidéos, puis se déplacer, c'est les industriels.
Oui, ah, Rio Tinto,
les premiers, pas les municipalités, ils étaient très créatives.
Parce que ça paraissait bien qu'elles ont fait ça?
Bien, comme Hélène disait, QIT Ferritstone, à l'époque, venait de démarrer son usine d'assainissement des eaux. À faire aussi également. Donc, il y avait comme...
Dioxyde fermé.
Les municipalités avaient aussi leur usine de d'épuration, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Tout ça faisait qu'il y avait... Il y avait peut-être des bons vendeurs et vendeuses auprès des industries pour... ouais, c'est ça.
Bon,
mais je vais revenir il y a plus de 30 ans.
Oui. Viens vite, parce qu'on va au public.
J'écrivais des chroniques sensibiliser mes chasseurs puis mes pêcheurs. Mais vous m'excuserez, mais ça n'a pas changé. Ils ne sont pas plus gentils, ils ne sont pas plus fins.
Okay. On doit aller aux publicités, je le disais. Après les publicités, je vais me tourner vers Anne-Marie Dulude du Biophare, puis Marie-Josée Picard, qui a très hâte de parler de tourisme région Sorel-Tracy, qui chacune, dans leur fonction, font la promotion de la région de biosphère du lac Saint-Pierre. Alors, à tout de suite.
Pour la fête des amoureux, CJSO vous invite à participer au concours de la Saint-Valentin.
En collaboration avec la ferme du Barbu Boucherie Joyale, courez la chance de gagner l'un des quatre plateaux de fondue chinoise d'une valeur de 50 $, incluant bouillon maison, bœuf, poulet, porc, fromage en grains et patates grelots. Pour participer, rien de plus simple. Remplissez le formulaire dans la section concours sur le cjso.ca.
Le tirage aura lieu le 13 février avec Guillaume Couture dans Yacht ces matins.
Bonne chance!
C'est la Saint-Valentin chez Brunet. Pour un ami ou un être cher, découvrez une superbe sélection de coffrets parfums et de soins pour la peau pour tous, d'accessoires tendance, de bijoux mode et d'idées cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets. Et parce que les petites attentions font toute la différence, l'emballage cadeau est offert gratuitement. Pour un service attentionné et personnalisé, passez chez Brunet David Gauthier, Jean-Philippe Paquin, pharmacien propriétaire affilié à Brunet Sorel-Tracy.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Voilà, 26 ans que le Lac-Saint-Pierre est désigné région de biosphère. En studio avec moi pour en parler, Anne-Marie Dulude, Normand Guerrier-Py, Hélène Ginac, Paul Messier, Marie-Josée Picard et Geneviève Tardy. Anne-Marie Dulude, vous êtes directrice générale du Biophare, une institution muséale qui met en valeur le patrimoine naturel et humain lié à la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Marie-Josée Picard, vous dirigez Tourisme Région Sorel-Tracy, qui a pour mission la promotion, l'accueil, l'information touristique. S'il y a un endroit, Anne-Marie, où il est question de la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, c'est bien au Biophare. Parlez-moi donc d'abord de Confluence, là, votre toute nouvelle exposition permanente.
On emmène large pas mal dans Confluence et ça traite de différents sujets, justement de la présence autochtone depuis fort longtemps, depuis même plus de 5000 ans. Donc oui, on fait un voyage dans le temps et l'espace de ce magnifique territoire. Nous, on fait de la sensibilisation au sujet de la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Depuis 2001, je dirais tout de suite après, là, moi, j'ai commencé à travailler au Biophare en 2001, donc à travers des activités, des animations auprès des jeunes, des adultes, des expositions tant virtuelles, temporaires que permanentes, toutes sortes d'activités qu'on offre qui visent à sensibiliser les gens, et ils sont sensibilisés. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent visiter nos expositions, avant, on parlait de la région de Sorel-Tracy, entre autres, comme du haut lieu des Hells Angels, puis maintenant, c'est pas ça, là. Les gens viennent comme pour entendre parler de la nature. Effectivement, ils sont complètement dépaysés parce que nous, on a une excursion nautique aussi,
oui, oui.
Un peu comme la SABL. On est,
alors, elle nous plonge votre randonnée nature dans ce territoire,
oui,
d'exception.
Oui, comme la SABL. Fait que les gens, mm-hmm, sont complètement dépaysés puis ils adorent ça. Là. Ça les sensibilise, les, oui, gens. On a beaucoup de gens de l'extérieur. Et
mais
de,
beaucoup le
de
sont
région.
Déjà. Ceux qui viennent de l'extérieur, oui, le sont, ils viennent dans la région de biosphère.
C'est un autre genre de tourisme. Là.
Oui.
C'est des gens qui sont
plus
attirés
vert,
par...
plus...
l'environnement.
Des touristes plus lents,
oui,
des touristes qui ont le goût de découvrir puis d'admirer toutes les beautés qu'on a ici. Je pense qu'on n'a rien à envier à aucune région, là, donc c'est facile pour nous. D'entrée de jeu, j'aurais le goût de vous dire à chacun de vous merci d'avoir fait le travail.
C'est Marie-Josée Picard pour nos auditeurs. Oui, oui. Là, vous êtes joint à la conversation. C'est Marie-Josée Picard, directrice générale de Tourisme Sorel.
Mais vous me facilitez la vie. En fait, vous facilitez mon travail. Merci, Anne-Marie, pour ton exposition qui est extraordinaire. Et il faut que tous aillent voir cette exposition-là. Je trouve que c'est une belle façon de connaître notre territoire. Aller faire une croisière, aller se promener en... kayak, aller se promener en paddleboard, c'est une belle façon de voir, puis de communiquer avec la nature, puis de voir tout ce qu'on a à visiter sur le site.
Marie-Josée, cette désignation de région de biosphère, mm-hmm, est-ce que ça vaut de l'or touristiquement? Est-ce,
oui,
que ça amène du monde pour la peine ici? Est-ce que...
En fait, pour nous, c'est un gage de qualité. C'est une reconnaissance qui est facile à... déployer, et j'abonde dans le même sens. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'enseigne un peu partout.
Bon,
pour dire
enfin,
que nous,
quelqu'un
nous
qui est d'accord avec moi.
Avec Geneviève, j'étais d'accord, non.
Oui, c'est vrai, mais, Geneviève abondait dans ce sens-là aussi.
Mais en fait, oui, c'est un gage de qualité, puis c'est une façon... c'est facile de convaincre des gens de venir chez nous avec, avec l'UNESCO.
Ça conduit au développement du... pour comment appeler ça, tourisme vert, de l'écotourisme.
Oui, le tourisme scientifique. Puis je pense que tout passe par l'éducation. Et je pense qu'une fois que les gens sont venus chez nous, ils sont conquis, et c'est plus facile après de les convaincre de protéger cet environnement-là. Donc, pour nous, on fait toujours le petit volet éducatif, mais j'ai de bons attraits dans la région qui font ce travail-là en éducation.
Nous arrivons rapidement au bout de cette émission, j'ajoute malheureusement aussi. J'ouvre la discussion à toutes et tous. De quoi souhaitez-vous que soit fait le prochain quart de siècle en termes de conservation, de mise en valeur et de promotion de la région de biosphère du lac Saint-Pierre?
Moi, j'aimerais que les populations de perches chaudes augmentent.
Non, mais parce que t'aimes beaucoup le poisson, hein?
Non, c'est que c'est un indicateur de santé, oui. Puis ça va être le signe que les efforts qui sont investis portent fruit. Donc, et j'aimerais juste dire aussi qu'on appelle le lac Saint-Pierre l'Amazonie du Québec. Mmh, mmh. Donc, c'est une belle façon de le nommer pour que les gens comprennent à quel point c'est un territoire qui est exceptionnel.
Et des paysans.
Et ça améliore la qualité d'eau du Saint-Laurent.
Aussi.
On s'abreuve de l'eau du Saint-Laurent. Donc, toutes ces plantes aquatiques-là filtrent l'eau. Là.
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en parle aussi dans les écoles. Je me souviens d'avoir fait des présentations dans les écoles parce qu'on a certaines écoles primaires qui était École verte Brundtland, qui est une appellation québécoise. Il y a des financements pour ça. Donc, on puisse sensibiliser les jeunes dès le primaire. Parce que quand ils sont sensibilisés par la suite, on le voit avec l'environnement, on le voit
et
avec
là,
le recyclage.
Et là, on le fait beaucoup. Il y a une grosse limite de financement.
Mais nous
ils viennent
aussi,
de couper dans la culture à l'école. Ouais. Ce qui est la grosse limite, c'est le transport. Parce que nous, on offre depuis 2003, on reçoit les 5-6e années de toutes les écoles du territoire. Puis la limite, c'est vraiment, il faut qu'on trouve un financement, nous autres, pour payer leur autobus.
Nous, on se déplace dans les écoles.
Vas-y, tu vois que ton micro, que j'ai plus de difficultés qu'avec les autres. Vas-y.
Ce que je souhaite ardemment... Paul en a parlé brièvement. Là. Les aménagements qui étaient favorisés pour la sauvagine, ça a détruit notre population de poissons à certains égards. Donc, moi, je souhaiterais que ces aménagements-là soient remis...
Est-ce que vous pouvez être plus précis là, quand vous dites ça, les aménagements?
En fait, on créait des bassins fermés pour que les canards puissent aller s'abreuver puis élever leur caneton.
Mais ça, c'était supposé être bon, ça?
Mais... Le lac Saint-Pierre, il y a des eaux hautes puis il y a des eaux basses. Aux eaux hautes, le poisson entre dans ses il devient captif et décède. Donc, exemple, Baie du Fèvre, qui était une gloire lorsqu'on a déposé la candidature, tout le monde la Baie du Fèvre avec les oies blanches, c'est une trappe à poissons. Ça détruit carrément les populations. Heureusement, j'ai appris de mon ami Louis Gagné qui a une conclusion très heureuse prochainement, là, qui va être annoncée. Et le territoire va être remis en phase avec le lac et les poissons vont pouvoir entrer et sortir de façon naturelle.
Plus de maïs.
C'est des nouvelles pratiques agricoles.
Et l'autre volet, c'est que je souhaiterais, parce que j'ai tout essayé dans ma petite vie, là, et j'aimerais ça qu'on essaye d'implanter à certains endroits de la réintroduction de pêche chaude. Ça coûte pas cher, mais vlimeux qu'on essaie. Parce que là, on a beaucoup trop de scientifiques qui sont habitués comme nous, avec des dossiers de 1000 pages, là. Mais concrètement, il faudrait se mettre les mains dedans, capturer quelques pêches chaudes. Il y en a partout. Là, je pêche au lac Saint-François, puis on pointe de la belle pêche chaude. Donc, donner un coup de main à la population locale.
Nous sommes déjà à Marie-Josée, oui,
mais dans
le 25, mot de la fin.
D'ici 25 ans, moi, je souhaite qu'on puisse continuer de se promener puis de découvrir les îles et que la population soit de plus en plus abondante.
Bien, merci. C'est un beau mot de la fin, Marie-Josée Picard. Merci à vous six pour ce trop court moment là autour de... Lac Saint-Pierre, région de biosphère. Merci Hélène, Normand, Geneviève, Anne-Marie, Marie-Josée, Paul. Merci d'avoir été à l'écoute, mesdames, messieurs, et à mardi prochain pour une autre tribune.